Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous ce matin, vous écoutez CHOFM, merci à l'équipe de Down on the Range, nous sommes à la troisième semaine de la campagne de financement. On vous rappelle que le numéro de téléphone, parce que nous sommes en direct, c'est le 613-562-5968, si vous voulez faire un don à l'émission africaine. On voulait déjà remercier d'entrée de jeu tous ceux et celles qui ont bien voulu contribuer à cette émission, à d'autres émissions, bref, à toutes, dans la campagne de financement de la radio. Bonjour Monsieur Moulimba, comment vous allez?
Bonjour Marie-Jeunesse, bonjour tout le monde qui se goûte en ce moment.
Ottawa dit bonjour.
La campagne est bien passée.
On continue à battre le tambour, M. Moulimba. Vous devez vous rappeler comment ça se passe encore.
Oui, je sais que c'est la période qui n'est pas toujours facile. Et à cette période, on n'a pas beaucoup d'émissions régulières comme on les fait.
Voilà, et en plus, c'est vraiment des programmes tout à fait différents à ce moment-là, oui. Alors, on commence l'émission comme ça. Aujourd'hui, c'est samedi le 12 avril. Samedi le 12 avril 2008. Monsieur Moulimba, vous êtes avec moi?
Oui, moi je vous écoute. Je suis à l'écoute de l'émission.
Voilà. Alors, dans un livre intitulé La Traque, moi et mes criminels de guerre, l'ancienne procureure du TPIR, Carla Del Ponte, revient sur deux épisodes concernant le mandat d'un. Son mandat à la tête du TPIR de 1999 à 2002, l'affaire Baraya Guiza et l'enquête concernant les allégations sur les crimes commis par l'armée patriotique rwandaise en 1994. Ce livre qui est apparu il y a quelques jours en Italie aux éditions Fer Trinelli.
Il y a un italien qui sera traduit aussi en anglais, je pense.
Tout à fait. Il faut l'attendre en janvier 2009. Nous savions couvrir une enquête sur le fonds patriotique rwandais aurait énervé à Kigali parce que le président Kagame et d'autres leaders tutsis ont basé une grande partie de leurs prétentions à la légitimité sur la victoire du FPR contre les génocidaires en 1994, écrit Carla Del Ponte.
Ils ont envahi les Rwandais, ils ont dit alors nous, c'est nous qui mettons fin au génocide.
Et voilà,
nous sommes légitimes.
Ils ont présenté leur conquête du pays comme une lutte juste pour mettre fin au génocide. Et elle continue en disant, nous savions que le gouvernement était contre nous, dit-elle. Malgré cela, dès 2000, le parquet ouvre une enquête secrète. Les autorités rwandaises tenaient déjà sous contrôle chaque étape de nos enquêtes, écrit-elle. Nous savions que le service de renseignement du Rwanda avait reçu un équipement de surveillance des États-Unis qui était utilisé pour les appels téléphoniques, le fax et le trafic internet.
Non, oui, normalement, il y a des équipements quand même qu'on utilise. Par exemple, je pense qu'elle relate comment il fallait utiliser, par exemple, les systèmes de téléphone suisses. Mais alors, les Américains s'y opposaient.
Voilà.
Je pense que je te coupe pas, mais...
Tout à fait, Monsieur Moulimba, j'aime ça comme ça. En fait, à Kigali, le 9 décembre 2000, j'ai personnellement informé le président Kagame que le bureau du procureur avait ouvert un dossier sur les allégations concernant le Front patriotique rwandais de crimes de guerre commis alors que les Hutus commettaient le génocide. La réunion a pris place dans son modeste bureau du complexe présidentiel. Les enquêteurs disent que des preuves ont été collectées sur 13 épisodes pendant lesquels, en 1994, les membres du FPR auraient massacré des civils au moment de l'avancée des troupes à travers le Rwanda. Kagame n'a ni approuvé ni nié que ces incidents avaient eu lieu, M. Moulimba. Et Carla Del Ponte propose alors de démarrer par l'affaire des religieux assassinés à Gakurazo et a fini par convaincre, du moins, croit-elle, la présidente, le président rwandais de coopérer. Avec le chef des enquêtes, la Suissesse, parce que Carla Del Ponte est d'origine suisse, se rend dans le bureau du procureur militaire. Voilà, et elle dit ceci, Ruingaba était en uniforme très courtois. Elle continue en disant, plutôt que d'accepter de nous remettre la documentation, M. Ruingaba nous a informé qu'il conduisait les enquêtes et n'était pas sous la compétence de la Cour. La coopération piétine toujours, j'imagine, elle continue qu'avant d'appeler le président Kagame, écrit-elle, s'il l'a fait, Ruingaba a parlé avec ses supérieurs militaires, y compris les anciens du front patriotique rwandais, qui avaient des raisons de craindre de voir leur nom sur un mandat d'arrêt. Et elle continue même en disant que Kala Déporté ne revient pas sur l'épisode déjà décrit dans le livre de son ancien porte-parole, Florence Hartmann, et qui avait été révélé par le journaliste Pierre Azan dès 2002 dans le quotidien Le Temps, un journal suisse, au cours duquel alors il disait, alors ambassadeur pour les crimes de guerre à Washington, l'Américain Pierre Richard Prosper l'aurait contrainte de suspendre ses enquêtes. Et elle fait encore l'impasse sur les derniers mois de son mandat. En août 2002, sur les pressions qu'elle avait furtivement dû subir de la part des membres des Nations Unies, dans son livre, Kala Déporté aussi fait l'impasse sur de nombreux épisodes concernant tant le TPR que le tribunal international pénal pour la Yougoslavie. En revenant sur l'attentat au cours duquel l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana était décédé le 6 avril 1994 et qui avait entraîné le début des massacres, Kala Déporté estime qu'il ne devrait pas faire l'objet d'une enquête de la part du parquet. La réponse était non, et pour de bonnes raisons. Louise Arbour a fait une analyse de l'attaque et a conclu que même si le procureur était en mesure de démontrer que la chute de l'avion venait des Tutsis, il aurait été difficile d'engager une procédure devant la Cour contre les personnes responsables de l'assassinat du président. Un crime n'est pas nécessairement un crime de guerre, et la compétence de la Cour s'est limitée au crime de guerre au sens large. Et puis voilà, pour terminer, pour la Suisse, il convenait de savoir si l'attentat était le prélude ou non à un crime de guerre. Le procureur, je la cite, « Le procureur, à mon avis, aurait pu prouver que l'assassinat du président Habyarimana constituait un crime de guerre s'il avait été en mesure de démontrer que les personnes qui ont abattu l'avion ont calculé que cet acte déclencherait un génocide qui permettrait d'en tirer un avantage politique. Ce scénario est si machiavélique qu'il est peut-être difficile à imaginer. De nombreux Rwandais et Rwandaises, en particulier de nombreux Hutus, ont voulu une réponse à ce mystère, dit-elle, car la Déporté ne lève pas le mystère, mais coopère avec le juge français Jean-Louis Bruyère, qui, en novembre 2006, a émis 9 mandats d'arrêt et demandé au Conseil de sécurité de saisir le tribunal international pour le cas du président rwandais. Voilà, André Moudoumba, l'introduction d'Afrique Plus.
Voilà, il faut encore ajouter, Vianney, qu'il y a un autre livre qui vient de sortir, d'ailleurs, dont parle Fraternité Matin, donc aujourd'hui même, là, nous sommes samedi.
Voilà.
Donc l'article est sorti aujourd'hui. Le livre est intitulé « Dans le méandre du génocide rwandais ». Alors, l'arrêt Bruyère est-il inscrit dans la recherche de la vérité sur l'attentat du 6 avril 1994 qui a causé la mort du président Habyarimana du Rwanda et conduit le pays dans le méandre ensanglanté du génocide? C'est la principale interrogation à laquelle l'ouvrage « Réquisition du mandat d'arrêt de Bruyère contre le Rwanda » tente d'apporter des réponses. Alors, les 6 pistes burundaises, hutus modérés, belges, françaises, extrémistes, hutus et front patriotique rwandais, avancées par le juge français, ont été réanalysées. Alors, tous les témoignages, les preuves, ont fait l'objet d'une analyse approfondie. À la lumière de l'arrêt Bruyère, des rapports antérieurs de témoignages postérieurs à l'arrêt. Par exemple, les témoignages, les rapports publiés par les Sénats belges, l'ONU, Colette Blackman, qui écrivait Mwanda, qui a aussi écrit. Donc, de nombreuses contradictions ont été mises en exigence par l'auteur. Alors, le livre est écrit par Tasfir Diallo. Il est titulaire d'un DA en droit, d'un diplôme d'études professionnelles approfondies en administration et gestion. Donc, cet auteur de plusieurs articles sur la crise donc en RDC Congo fournit une analyse rigoureuse de l'arrêt montrant des contradictions donc inexcusables, des amalgames et une intention manifeste de nuire. Donc, au-delà de la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali et des attaques frontales qui s'ensuivent, donc, souligne l'auteur, cet arrêt pourrait avoir une incidence sur l'avenir de la francophonie ou plutôt de la France-Afrique, comme on le dit. Donc, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce sujet. Bon, c'est juste
un avant-goût.
Un petit point, bon. Et qu'il y a encore beaucoup de livres qu'il faut lire à ce sujet. On parle encore du génocide rwandais.
Et encore un autre article comme ce, par rapport tiré dans l'agence Hirondelle, en fait, qui parle de comment Paul Kagame a saboté le travail de Madame Carla Ponte. Dans une entrevue au quotidien italien La République, Carla Ponte dira avoir été menacée pour ses enquêtes au TPER par le chef de l'État rwandais, interrogé sur le malaise et la nervosité de Kagame à propos des crimes commis par l'APR, l'Alliance Patriotique Rwandaise, qu'il dirigeait en 1994. Carla Ponte nous a raconté, je cite, « Lorsque nous avons commencé à mener nos enquêtes sur l'APR, nous nous sommes demandé s'il était nécessaire d'informer le gouvernement du Rwanda. Après réflexion, nous avons décidé qu'il fallait non seulement avertir le gouvernement de nos investigations, mais qu'il fallait surtout essayer d'obtenir sa collaboration dans ces investigations. J'ai donc décidé de rencontrer le président Kagame à ce propos. » Voilà donc, fin de citation, M. Mbouba. Mais il y a encore, si vous permettez, il y a plusieurs points. On parle dans ce, par rapport à l'agence Hirondelle, on parle aussi du rapport de la CIA qui accuse la France dans l'attentat du 6 avril. Et dans ce rapport, on parle quelque part, il y a quelque part où on parle du Canada, il y a la bombe qui sème la panique à l'ONU, et l'ONU n'a aucun fax du général Dallaire sur la planification du génocide. L'histoire commence le 10 janvier 1994, lorsque ce fameux Jean-Pierre rencontre le colonel Luc Marchal, commandant belge du secteur de Kigali, et lui raconte qu'il est membre de la sécurité présidentielle d'Abiyagmana, responsable de l'entraînement des miliciens Hutus et membre de l'état-major des phares. C'est sur lui qu'il est, c'est la base de ses affirmations, qu'il aurait été pris pour un informateur crédible et digne de foi par le général Dallaire. C'est l'agence Hirondelle qui le dit, et elle continue un peu plus bas. En juin 2003, un avocat canadien, Maître André Tremblay, a commis à la défense d'un officier rwandais réputé être un cerveau de la planification du génocide, entre guillemets, dans le procès des militaires, veut retrouver l'original de ce fax. Il reçoit une réponse étonnante de l'assistant du secrétaire général de l'ONU, qui s'appelait, le nom ici est Ralph Zacklin. Alors, nous avons mené une, et je cite, entre guillemets, nous avons mené une large recherche dans les archives de l'ONU pour retrouver à la fois l'original du document qui avait été signé par le général Dallaire et transmis de Kigali, ainsi que l'original de la transmission qui avait été reçue à New York. Nous regrettons de devoir vous informer que ni l'un ni l'autre de ces documents originaux n'ont été retrouvés. Dallaire a-t-il donc réellement envoyé un fax sur le plan d'extermination des Tutsis le 11 janvier 1994 à l'ONU? Voilà, André Mulumba, autant de questions. Autant de questions qui sont pour ce qui s'est passé au Rwanda, génocide, massacre, appelez-le comme vous voulez. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation, André Mulumba.
En fait, il faut dire que le régime en place à Kigali depuis juillet 1994 tire sa légitimité même du fait qu'il aurait arrêté le massacre ou le génocide. Alors, selon cette thèse officielle et sur laquelle reposent les bases même du régime FPR, si Kagame n'était pas au pouvoir, les génocides devaient continuer, il y aurait plus de morts. Mais c'est qu'on sait qu'il y a eu génocide, il y a eu des morts. Et plus que les jours passent, jamais gêné, on commence à en apprendre encore plus.
Et voilà, encore par rapport au rapport de la CIA qui accuse la France dans l'attentat du 6 avril 1994, et je cite encore l'agence Hirondelle qui dit que un rapport erroné de l'ancien premier ministre Jean Kabanda pour brouiller les pistes et compromettre la France dans un attentat terroriste. Et c'est en novembre 1994 lorsque le gouvernement intérimaire prend le chemin de l'exil vers l'est du Zaïre que des agents de la CIA entrent en contact avec l'ambassadeur du Rwanda à Ottawa au Canada, le docteur Segasayo. Il lui demande de servir d'intermédiaire entre eux et Jean Kabanda. Ils savent que l'ambassadeur rwandais est très proche du premier ministre et qu'il facilitera la prise de contact. L'accès à Jean Kabanda ne se fait cependant pas sans difficulté car il se trouve dans le camp de réfugiés installé à Bukavu, dans le sud Kivu, est du Zaïre. Et voilà, et les agents de la CIA se font alors passer pour des hommes d'affaires américains qui veulent organiser un voyage avec le premier ministre rwandais aux États-Unis, Jean Kabanda. Alors se résout à effectuer le voyage, non sans se demander pourquoi tant d'attention à son égard et surtout pour son pays que l'on vient d'abandonner à la folie génocidaire. Lorsqu'il arrivait à Nairobi, les agents de la CIA lui présentent une série de documents dans lesquels on trouve un rapport intitulé « Résultats de l'enquête sur l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira du Burundi et Juvenal Habyarimana du Rwanda le 6 avril ». Voilà, M. Mulumba, une chose est aujourd'hui sûre. Ce rapport venant d'une agence canadienne dénommée ISTO, International Strategical and Tactical Organization, et travaillant pour le compte de la CIA, est un faux par rapport d'après l'agence Hirondelle. C'est un modèle du genre, comme savent en fabriquer les services de renseignement de tous les pays. Voilà, je ne sais pas si ça apporte un peu plus d'eau au moulin, mais il est 7h22, André Mulumba. On part avec la première chanson. Et en principe, on devait aller à Montréal chercher des gens. On va voir s'ils sont là, M. Mulumba. Mais
une bonne introduction de l'émission et puis ça me plonge encore dans... C'est comme si je me trouvais déjà encore au Rwanda dans le génocide.
C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui est arrivé à nos frères là-bas. Ouais. Et juste une anecdote, cette semaine, quand il y avait cette commémoration au Parlement, ici à Ottawa, à André Mulumba, quand j'y étais, il y avait deux groupes. L'un des Tutsis de l'autre côté qui célébrait le génocide des Tutsis et de l'autre les Hutus. Vous voyez ce qu'ils faisaient,
ils observaient seulement.
Ils faisaient la même chose que les autres. Alors c'est pour dire en fait qu'est-ce qui se passe dans ce pays là où les gens n'ont pas encore compris que il y a pas de menteur, il y a pas de perdant, tout le monde a perdu et c'est tout le monde qui gagne. Qui gagnerait à s'asseoir autour de la table et à faire la paix. Voilà André Mulumba, le message que j'ai adressé à mes frères et mes sœurs du Rwanda, du Burundi et en extension en RDC.
Bon, voilà. Alors, on continue l'émission africaine avec la première chanson. C'est ça. J'espère que le message est parti, ils ont compris.
On espère, André Mulumba.
Politicien, moyen, la mer.
Voilà. Nous sommes en direct. Nous sommes à Montréal. Nous sommes avec Monsieur Jean-Marie Moussenga. Monsieur Jean-Marie Moussenga, bonjour et bienvenue à l'émission africaine Afrique Plus.
Bonjour Monsieur Jean-Marie Vianney.
Ah, ça arrive.
Je suis content de cette première invitation à Afrique Plus.
Alors, il faut rappeler que vous êtes le président de la communauté congolaise de Montréal métropolitain.
Exactement, depuis juillet 2007.
Tout à fait. Et puis vous avez organisé le 30 mars dernier une conférence intitulée les conséquences du conflit rwandais en RDC et les violences des droits humains.
Tout à fait. C'était le 30 mars dernier. Il faut dire qu'il y en avait deux. La première, c'était le 29 mars. Les médias et le Rwanda, la difficile recherche de la vérité.
Oui.
Et puis les 30, les conséquences du conflit rwandais en République démocratique du Congo et les violations des droits humains.
Mm-hmm. Et dites-nous voir, en organisant cette conférence qui a été assez controversée. Quel était l'objectif, en fait, le motif pour lequel vous vouliez l'organiser, cette conférence-là?
Mais tout d'abord, il faut mentionner la présence de conférenciers. C'était une conférence internationale.
Oui.
Et avec des personnalités très importantes qui ont parlé de la vérité, de tout ce qui s'est passé dans les conflits qu'on a actuellement en République démocratique du Congo, qui a commencé avec depuis les génocides rwandais, depuis l'attentat contre l'avion des présidents Habyarimana et rwandais Hutu et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira Hutu également. Tout a commencé de là. Et il y a eu un flou, un cafouillage qui ne se disait pas. Alors, il fallait maintenant dire la vérité. Et puis, les médias étaient tout à fait méconnaissant de la situation qui prévaut dans les grands lacs africains. Il fallait dire la vérité.
Cette conférence était intitulée Médias et le Rwanda, la difficile recherche de la
vérité. Ça, c'est le premier jour, les samedis 29.
Et le deuxième jour, c'était les conséquences du conflit rwandais en RDC.
En République démocratique du Congo, parce qu'il faut dire que depuis les génocides rwandais en 94 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ces génocides-là qui continuent en République démocratique du Congo. Et tant que il faut toujours faire les liens entre les génocides et ce qui se passe aujourd'hui en 2008. C'est la poursuite, la continuité. Alors il fallait faire les liens de tout ça et puis dire la vérité. C'est ça le but de la conférence, justement.
Alors dites-nous voir, parlons un peu, voir, de rentrer un peu dans le sujet. Les origines de ce conflit, dites-nous un peu, pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que vous savez quand même que nous sommes en Amérique du Nord, nous sommes au Canada. Donc pour les Canadiens qui ne connaissent vraiment pas ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique-là, essayez de nous donner en quelques secondes, quelques minutes.
Alors comme je l'ai dit, qu'on l'éveille ou pas, l'origine du conflit au Congo remonte en avril 1994 avec l'attentat contre le président juvénile Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira. Tout de suite après, le massacre était déclenché. Les deux ethnies Hutu et Tutsi étaient des victimes. Il faut reconnaître cela. Mm-hmm. Il n'y avait pas de Tutsi qui étaient victimes. Ce sont les deux ethnies qui étaient victimes. Il y a eu des morts de part et d'autre. Ça, les conférenciers l'ont bien reconnu. Mmh. Et c'est ça l'origine qui a provoqué toute la situation qu'on vit aujourd'hui. Vous voulez bien en quelques mots.
Et vous avez eu Monsieur Pierre Payan, qui est un écrivain, journaliste, enquêteur français, auteur de Livre Noir, Fureur Blanc, Noir Fureur Blanc Menteur.
Blanc Menteur, oui.
Et vous avez aussi Jordi Palou Levernos. Un avocat espagnol.
Exactement.
Du Forum international pour la vérité et la justice en Afrique des Grands Lacs, un organisme à l'origine de la plainte ayant abouti à 40 mandats d'arrêt contre d'actuels et anciens dirigeants du Rwanda.
Exactement.
Et le journaliste belge, je pense qu'il n'était pas là, le journaliste belge.
Il était quand même présent parce qu'il nous avait envoyé une cassette vidéo qu'on a écoutée. Il était présent en quelque sorte.
Et une autre personnalité de renommée aussi, Monsieur Robin Philpott.
Oui.
Un écrivain québécois, auteur de deux livres sur le Rwanda.
Alors, étant donné que les deux livres, oui, qui disaient c'était le premier livre, c'était quoi? Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali.
Ça ne s'est pas passé comme
ça. Il faisait aussi la lumière et de tout ce qui s'est passé. Vous savez, tout d'abord, avant, lorsque la conférence a été publicisée, il y a eu beaucoup de tentatives d'annulation de cette conférence, beaucoup de pression. C'est vraiment une conférence internationale qui a eu beaucoup de pression politique.
Vous comprenez
parce que
pourquoi,
le gouvernement rwandais ne voulait pas justement que cette conférence-là ait lieu au Canada.
Dites-nous.
Mais heureusement, quand Pierre Payan se déplace, quand Paddy et quand Jordi Paloul Vernon se déplace, ce sont des personnalités qui ont aussi des réseaux, qui ont aussi des contacts. Écoutez, on ne peut pas empêcher des personnalités telles que celles-là de s'exprimer.
Dites-nous voir, pourquoi est-ce que les gens voudraient empêcher à. Ces auteurs, ces journalistes.
Parce que malheureusement, en 2008, il y a encore des gens qui pensent qu'ils vont vivre comme dans les années de la colonisation. Ils vont cacher ce qu'ils font. Ils ne veulent pas entendre la vérité, tout simplement. Mm-hmm. Alors, ils continuent dans la clandestinité de la vérité. Ils ne voulaient pas et puis ça gêne.
Mmh. Dites-moi, la RDC est l'un des seuls pays en Afrique, à ce que je sache, à avoir autour de lui 9 voisins. Pourquoi seulement avec le Rwanda, la RDC, la République démocratique du Congo, a des problèmes?
Oui, et vous savez, ça aussi, c'est de la difficulté. Un géant pays de l'Afrique avec 9 voisins. À l'ouest, il y a quand même l'enclave de Cabinda qu'il ne faut pas oublier. Hein. Mmh. Même si c'est indexé à l'Angola. Et puis les Congo-Brazzaville à l'ouest, au nord, la République centrafricaine et les Soudans, au sud, la Zambie et l'Angola. Et puis à l'ouest, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Mm-hmm. Justement, c'est toujours à l'est. Pourquoi? Parce que moi, je pense que ça fait partie de la stratégie belge. Hein? La stratégie belge divisée pour mieux régner. Et pourtant, au départ, c'était un seul peuple. Le Congo, le Rwanda et le Burundi. Mais ça prenait une stratégie, ça fait partie aussi des conséquences de la colonisation.
Les conséquences de la colonisation, oui.
Alors, divisé pour mieux régner, et puis ça aussi, ça nous fragilise, nous, en tant qu'Africains, ça nous fragilise, ça ne nous met pas dans une situation de force. Mm-hmm. Alors, c'est maintenant du chacun pour soi. Chacun essaie de tirer profit de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a ces problèmes-là à l'Est. Mais ça, c'est une volonté politique de la politique internationale.
Et dites-moi, l'association Umura, qui est une association des survivants du génocide des Tutsis du Rwanda, qui est basée ici au Canada, et a lancé une pétition pour que la Cour suprême du Canada adopte une motion pour ceux qui refusent ou alors font de la négation d'être poursuivis. Quel est votre commentaire par rapport à cette démarche?
Je vais vous dire tout de suite là que le motif de leur demande n'est pas clair non plus, parce que personne n'est ni les génocides. D'emblée, lorsque M. Payan a pris la parole, il a dit que je ne nie pas les génocides des Tutsis, mais je refuse la version de Kigali. Alors, la version de Kigali, c'est la version présidentielle de Kagame. Vous comprenez? Mm-hmm. Les génocides, tout le monde reconnaît. Oui, il y a eu génocide. On ne met pas en cause cela. Mais la version donnée, les raisons données, c'est ça qu'on est en train de contester.
Et d'après vous, quelles sont les raisons qu'ils donnent, quelques raisons en quelques lignes?
Mais ça tout d'abord, c'est la peur. Hein, la peur, parce que, écoutez, si on va remettre en cause tous les processus hein, du début jusqu'à présent, de ces processus, disons, de ces génocides, ça va remettre en cause la présence, parce que l'auteur présumé de ces génocides est toujours là. Il est vivant, il est en fonction. C'est le président Kagame. Alors, tant qu'il sera au pouvoir, ça va être difficile d'aller chercher la vérité.
Alors, et il est au pouvoir, c'est sûr que peut-être qu'il a des supports à gauche et à droite. On dit beaucoup que les États-Unis sont derrière derrière le président Kagame. Alors, vous pensez que Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça?
Mais ça a été démontré par les conférenciers que les États-Unis sont les premiers à être aux côtés du président Kagame. Et vous savez, lorsque on dit, le Congo est victime de sa richesse. Le Congo est victime, lorsque chacun peut y aller et tirer profit, écoutez, ça fait son affaire. Et c'est dans cette optique-là que le président américain, que la politique américaine soutiennent encore les dirigeants actuels rwandais. Mm-hmm. Pourquoi? C'est une facilité, c'est une porte d'entrée au Congo et pour piller les pays.
On disait du Rwanda que le Rwanda avait des poussées expansionnistes. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Que le Rwanda...
Je n'ai pas bien compris la question.
On disait du Rwanda que le Rwanda avait envie d'étendre son territoire dans une partie de la République démocratique du Congo.
Mais vous savez, tout ce qui peut se faire aujourd'hui aura des conséquences demain, hein? Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est comme si les États-Unis disaient, bon, on va entrer au Canada, ils peuvent prendre une partie du Canada. Écoutez, il n'y a pas de logique là-dessus. Pour quelles raisons ils les feraient? Mm-hmm. Pour quelles raisons?
En terminant, donc, nous, parce que nous sommes au Canada, dites-nous voir, qu'est-ce que le Canada peut faire? Le Canada ou nous pouvons faire pour qu'on essaie d'expliquer ça aux gens ou d'apporter quelque chose comme solution par rapport à ce problème?
Écoutez, tout d'abord, le Canada est resté très silencieux. Pourquoi? Parce que le Canada est complice aussi. Le Canada est aux côtés des Américains. Hein. Mm-hmm. Le Canada est resté silencieux devant ces massacres, devant cette violation des droits humains en République démocratique du Congo. Pas plus. Donc les médias canadiens n'en parlaient pas. Regardez toutes les émissions là, à la télé, les médias n'en parlent pas, ne parlent pas de ce qui se passe. Ils ont commencé peut-être à parler maintenant. Pas plus qu'hier, il y a un auteur canadien, je pense qu'il est canadien aussi, sinon français, et M. Alain Denault.
Alain Denault, oui.
Qui voulait faire le lancement de son livre intitulé « Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique ». Alors que les gens étaient déjà là, installés, non, et je pense, un huissier qui arrive pour annuler la conférence. Il était muni d'une injonction de la toute dernière minute. Pourquoi, dans un pays soi-disant libre, on lui dit que votre livre ne contient que des mensonges?
Et dites-moi voir...
Pourquoi les mensonges? Parce que l'auteur dénonce justement les comportements criminels des entreprises canadiennes au Congo. Au profit de la bourse de Toronto.
Dites-moi voir, à un moment donné, on parlait de génocide des Tutsis et des Hutus modérés.
Oui.
Et de plus en plus, la tendance est en train d'aller. On parle maintenant de génocide des Tutsis tout court. Et voilà.
C'est vrai parce que les autres veulent vraiment privilégier une seule ethnie. Mais tout le monde sait que les deux ethnies étaient concernées par ce génocide-là.
Mm-hmm. Oui. Donc, parce que c'est, au Parlement, le 7 avril dernier, il y a eu une cérémonie commémorative pour se souvenir de 14 ans après ce qui s'est passé au Rwanda. Et nous avons vu les deux groupes, les Hutus et les Tutsis, qui manifestaient, qui se tirait le linge, en fait, si vous permettez.
Tout à fait. Mais comme je vous ai dit, les deux ethnies étaient des victimes. Tout comme lors de notre conférence, il y avait aussi les deux groupes. Hein. C'était une conférence organisée en partenariat avec le Congrès rwandais du Canada, et aussi avec la communauté burundaise du Canada. Vous comprenez? Donc, parce que lorsqu'il y a un peuple quelque part qui est victime, et on s'allie pour faire quelque chose, pour manifester et pour montrer au grand public, il n'y a pas tellement, vous savez, il n'y a pas de cette haine-là entre Hutu et Tutsi, non. Parce que d'un côté, tous les deux sont des victimes, et de l'autre côté, vous avez des groupes aussi démodérés qui disent que non, nous voulons que la vérité puisse être connue du grand public, nous voulons dénoncer cela. Oui, il y a eu génocide, mais ça ne s'est pas passé comme ça, c'est tout.
En tout cas, écoutez, on vous donne 30 secondes.
Mais je voulais quand même souligner quelque chose parce qu'il y a eu beaucoup de résultats positifs de ces conférences-là.
Oui, oui, parmi
ça. Et la première conférence, c'était quoi? Le public, surtout canadien, était éclairé sur l'assassinat de deux présidents, comme je l'ai dit tout tantôt.
Oui.
Et puis de deux, Kagame a reconnu ses responsabilités durant le génocide, demandant même qu'on regarde cela après son mandat et qu'il est le seul responsable, qu'on laisse les autres 39 qui sont visés par le mandat international. Et puis le Canada s'est finalement prononcé pour que les présumés assassins du père Guy Pinard et M. Karenzi Karake, qui est encore haut fonctionnaire, hein, à l'ONU, vous comprenez. Et le Canada a demandé à ce que celui-ci quitte son poste. Alors vous voyez maintenant qu'il y a des conséquences, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces conflits-là, et lors des génocides, il y a eu deux Québécois qui étaient quand même tués, et dont jusque-là, le Canada n'en parlait pas. Pourquoi? Pour que cela ne puisse pas nuire à leur stratégie, à leur programme déjà tracé. Alors nous on était très contents, pourquoi? Parce que maintenant on commence à voir d'une autre manière ce qui se passe dans la région des Grands Lacs à partir de nos deux conférences.
En tout cas, c'est toute l'Afrique, Monsieur Jean-Marie Moussenga, qui vous remercie de votre contribution à l'émission africaine ce matin.
Merci, moi qui vous remercie.
Merci de vos éclaircissements et on pense que nous allons rester en contact la prochaine fois que vous avez des choses que vous organisez à Montréal.
Mais écoutez, ça me fait plaisir. Je salue tous vos auditeurs d'Ottawa et des environs et puis à très bientôt.
Voilà.
Merci, passez un bon week-end.
Vous aussi. Allez, c'était Monsieur Jean-Marie Moussenga qui est le président de la communauté congolaise de Montréal. Là, on l'avait en direct depuis Montréal. Allez, au revoir. L'Afrique vous dit merci.
Merci, c'est gentil. Merci, au revoir.
Au revoir. Bonjour à Demoulba. Ottawa dit bonjour à Calgary. Nous sommes de retour avec vous.
Oui, bonjour Jean-Marie.
Écoutez, Monsieur Moulumba, on va écouter ça. C'est un extrait. On va prendre quelques minutes pour écouter ça. C'est un extrait que j'ai préparé pour tous ceux et celles qui sont en train de nous écouter. C'est un extrait de M. Amadou Ampateba.
Mais puis après, on revient avec la revue de la presse africaine et...
Tout à fait.
Le Zimbabwe est toujours à la une.
Voilà, et M. Ampateba va nous parler de le symbole de la vérité en Afrique. On écoute ça et on revient tout de suite avec toi.
Merci beaucoup.
Nulle part entière. C'est une question de croissance de lune. Il y en a celle de la lune croissante et celle de la lune décroissante. Eh bien, pour chercher la vérité, par exemple, il faudrait de savoir quitter sa vérité pour aller vers la vérité parce qu'elle se trouve au milieu de deux croissants, d'où le symbolisme de la pleine lune. Il faut que les deux croissants se rejoignent pour qu'il y ait la pleine lune. Et la pleine lune, dans la tradition africaine, est considérée comme étant le symbolisme même de la lumière, parce que le disque solaire ne se couche qu'en voyant le disque lunaire, et le disque lunaire ne se couche qu'en voyant le disque solaire. Et alors donc, savoir qu'on ne sait pas est d'abord la première des sagesses.
Êtes-vous un sage comme celui de Bandiagara?
Laissez-moi rire. D'ailleurs, des fois, tout à l'heure, quand vous avez dit en Patéba le sage, j'ai failli me retourner pour savoir. En tout cas, ce n'est pas moi. Je me demandais s'il n'y a pas un autre en Patéba là-bas, parce que, bon, hein, sage. Je vous remercie beaucoup, mais je souhaiterais l'être.
Voilà, Henri Moulumba, c'était un sage d'Afrique qui parlait. Et j'espère, on espère, en passant ça, que ça va aider nos frères du Rwanda et du Burundi, nos frères Hutu et Tutsi et toi, de pouvoir travailler et aller ensemble dans le chemin de la paix. Parce que ce qu'on voit, les lueurs que nous voyons à distance, c'est ça, la présentation de l'image que ça donne n'est pas une belle image, André Moulumba. Et ça fait énormément pitié quand j'assiste à ces conférences. Et je suis pleinement déchiré parce que j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de souffrance. Et il y a encore énormément de travail à faire. Et aidons nos frères du Burundi et du Rwanda et de la République démocratique du Congo, nos frères et sœurs, aidons-les à trouver des solutions à ce problème-là. C'est dangereux là-bas. Voilà, Moulumba. C'était mon petit message que j'avais à passer. Alors, on est prêt pour la revue de la presse?
Oui, on est prêt, Jean-Marie Vernet. Il faut dire que toute la presse est branché sur le cas du Zimbabwe. Et comme tu le sais, il y a actuellement d'ailleurs le sommet extraordinaire de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, convoqué par Lévi Mwanawas, le président zambien, président en exercice de la communauté, qui ça a commencé ce matin et c'est une rencontre consacrée entièrement à la crise qui persiste au Zimbabwe, où les résultats officiels des élections du 29 mars n'ont toujours pas été publiés. Le président sortant, Robert Mugabe, ne participe pas à ce sommet, selon la radio d'État d'Harare. Et en revanche, son rival, Morgan Tsvangirai, dirigeant du mouvement pour les changements démocratiques, principal parti de l'opposition zimbabwéenne qui vient de faire une tournée dans plusieurs pays d'Afrique australe, lui, il est attendu à Lusaka, justement. Oh, je parlais hier avec mon collègue Chapi Sishinga qui travaille pour l'agence Reuters.
Mm-hmm. Qui est basé.
Je m'excuse, j'ai un peu la toux et la grippe qui me menace.
Voilà, il n'y a pas de.
Oui, alors je parlais avec mon collègue Chapi Sishinga qui travaille pour l'agence Reuters, qui celui qui est. Lui est basé à Lusaka. Me dit que presque tous les paysans étaient déjà arrivés, que Tabumbeki était passé par Harare et que Mugabe, lui, il a refusé de venir assister et qu'il pense que c'est une rencontre qui n'est pas légitime, qui n'a rien à faire, il ne faut pas régionaliser la crise. Alors, et l'observateur, par exemple, de Palga, s'en prend à la commission électorale zimbabwéenne a publié les résultats, la commission crée un retard qui nous donne l'impression qu'on est en train de passer le résultat à la moulinette. Bien sûr, en faveur de Bob, entendez par là Robert Mugabe, le président sortant. Alors, pire, poursuit le journal, la commission électorale observe un silence coupable qui ne paie dans le contexte actuel que sortir le souffre. Dans ces pays, dans les pays, il faut le dire, l'impatience grandit. Le quotidien français d'Humanité, l'un des rares à envoyer sur place un journaliste, affirme que les Zimbabwéens n'y comprennent plus grand-chose. Alors, l'Humanité, qui qualifie la situation des surréalistes d'autant plus, souligne-t-il que l'opposition ne tente absolument pas de mobiliser la population. Donc, comme tu vois, la situation est un peu complètement bloqués sur le Zimbabwe. On ne sait pas ce qui se passe.
Alors, si vous permettez, on fait juste une courte pause publicitaire, parce que nous sommes en pleine campagne de financement. On vous rappelle que le numéro de téléphone à compagnie, c'est 613-562-59-68. Et merci à ceux et celles qui ont pu contribuer déjà à la réussite, soit pour l'émission africaine, soit pour d'autres émissions aussi.
Et bien entendu, on vit des publicités, ça c'est vrai.
Tout à fait. Donc on fait une courte pause et on revient tout de suite avec la continuité, M. Mulumba.
C'est beau.
Vous voulez obtenir votre permis de conduire? L'école de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus. Tout ça à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878.
Jocelyn Elinor est maintenant un agent CAM Transfert. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878.
Vous déménagez ou vous voulez envoyer de la marchandise? WIB Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique. WIB offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur WIB Cargo Express pour vos besoins en services d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381.
Ah, je me sens mieux.
Pourquoi?
Je viens de changer mon assurance maison, voiture et vie. J'ai choisi les coopérateurs comme assureurs et ils m'ont offert un rabais incroyable.
À qui avez-vous parlé?
Mon agent coopérateur, Edouard Ilunga, 7131 rue Strandhurst, suite 202.
Je devrais les appeler. Comment est-ce que je peux les rejoindre?
Par téléphone au 613-825-1322. Tu seras content d'avoir appelé.
Les coopérateurs, une place de choix.
Le party le plus multiculturel de la région de la capitale. Tropical Fever. Tropical Fever. Tropical Fever, c'est tous les samedis à partir de 22h30 au M-Land Club, 90 boulevard Grébert, à Gatineau. DJ Michel-Ange, DJ Ibrahim et DJ Karim pour un tour du monde tropical à vous donner la chair. Tropical Fever, c'est votre ambiance zouk, compa, reggae, hip-hop, salsa, merengue, soca, coupé, décalé, zaiko et rumba. Tropical Fever, tous les samedis à 22h30, M-Land Club, 90 boulevard Grébert, à Gatineau.
Dimanche, il faut que tout le monde vienne pour que ensemble on s'amuse parce que ça va être un show époustouflant. Donc, venez, comme on le dit, avec Magic System, tout le monde aura la maladie du bouger, personne ne va s'asseoir. Salut, moi c'est Asalfo du groupe Magic System. Si tu veux pas être gaou, écoute la radio de l'Université d'Ottawa. C'est ça qui est la vérité.
Voilà.
Ouais, dimanche 6 avril. Là.
Merci beaucoup à Salfou, on a hâte de te voir.
Allez, merci beaucoup.
Allez, M. Blumba, on revient avec vous. Ottawa, dis bonjour à Calgary.
Voilà, alors, la publicité passée, on revient aux choses normales. Donc, voilà un peu ce que dit la presse africaine. Alors, au niveau de l'Europe, voilà, il faut dire que en France, par exemple, les journaux La Croix sera au Zimbabwe. Alors, c'est un des rares journaux qui se retrouve, dont les journalistes se retrouvent sur place, alors que l'opposition a décidé de boycotter le second tour d'élection contesté, note le journal. Les églises du pays sont en première ligne pour exiger une démocratisation. Alors, la correspondante du journal nous livre son enquête parmi les églises chrétiennes du pays. La religion est particulièrement surveillée par le régime de Robert Mugabe, note la journaliste qui raconte. Des agents de la police secrète viennent régulièrement demander aux pasteurs des copies de leur homélie pour vérifier que rien ne puisse compromettre les pouvoirs. Tant l'influence des religions est forte dans ces pays, frappés par une terrible crise économique. Tu vois, Vianney, c'est quand même très grave.
Mm-hmm.
Alors qu'on va aller jusqu'à contrôler des pasteurs, donc c'est... Que dire maintenant des gens simples de la rue?
Pour enrichir par rapport au Mugabe, par rapport au Zimbabwe, j'ai un article du Courrier International, en fait, qui a toujours été un de mes favoris. Zimbabwe, oui. La fin de Mugabe est proche. En attendant le résultat définitif du scrutin du 29 mars, un journaliste zimbabwéen installé en Afrique du Sud, atterré par la situation politique et économique de son pays, estime que l'incompétent et cruel Mugabe vit ses derniers moments au pouvoir, hein, de Bulumba. Il s'est tiré de du journal The Independent.
Oui, mais je pense que les journalistes commencent maintenant à donner plus de paroles aux journalistes zimbabwéens qui vivent à l'extérieur, tout comme ceux qui sont à l'intérieur. Die Welt, le journal allemand par exemple, donne la parole à un des éditeurs des journaux les plus influents du sud de l'Afrique, Trevor Nkube. Et le gouvernement zimbabwéen n'hésite pas à tuer ses propres citoyens, affirme le fondateur du Zimbabwe indépendant et du Standard. Contrairement à ce qui s'est passé au Kenya, selon les journalistes, la violence ne vient pas des Zimbabwéens, mais de l'État. Et malgré son opposition au président Mugabe, Trevor Nkube n'est pas pour autant un partisan du chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai.
En fait, il y a beaucoup ce problème. Les gens sont perplexes par rapport à si Mugabe s'en va, qui prendra la relève. Et Morgan Tsvangirai, même s'il est le leader de l'opposition, André Moulumba, sans vouloir vous couper, il n'a pas la carrure des espoirs des Zimbabwéens quand même.
Bon, le problème étant qu'il faut voir un peu la situation dans la région Zimbabwéenne, c'est-à-dire la population zimbabwéenne ou la population d'Afrique australe, ce sont des gens habitués à la lutte, donc des indépendances, tu comprends? Alors, Tsvangirai, par exemple, il est beaucoup soutenu par les Occidentaux. Alors, on voit en lui comme juste un homme de blanc, s'il faut le dire comme ça.
Tout à fait.
Alors, Robert Mugabe, tu sais, c'est un symbole, comme l'écrit la tâche de Berlin. C'est le dernier représentant d'une génération de héros de lutte d'indépendance en Afrique à être encore au pouvoir aujourd'hui. Avec son départ, quelle que soit la façon dont il se déroule, il ne retouchera à sa fin en Afrique. Celle des pères fondateurs autoritaires qui tiennent leur pays en titelle comme leurs enfants et qui confondent la liberté de leur pays avec leur propre maintien au pouvoir. Mm-hmm. Alors, parlant de Morgan Tsvangirai, par exemple, la Frankfurter Allgemeine Zeitung publiait il y a encore une semaine un portrait de l'opposant Morgan Tsvangirai, le seul adversaire sérieux donc du président selon le quotidien, un rival qui cherche depuis longtemps à vaincre Mugabe par les urnes. Cet ancien ouvrier du textile est contremaître de mines. Il est âgé de 56 ans. Mm-hmm. Il n'a pas. C'est pas quelqu'un qui a vraiment partagé la manne dans ce pays-là, comme la plupart des hommes politiques du continent. Alors, il a lutté avec les pauvres. Mais dans la période qui a suivi, Morgan Tsvangirai est un produit du puissant mouvement syndical du pays, ce qui le rend donc suspect non seulement aux yeux de la classe dominante. Bon, c'est juste pour répondre à ta question.
À la question.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a milité avec la classe simple, la classe syndicale du pays.
Tout à fait.
Ce qui fait qu'aux yeux de la classe dominante, il apparaît suspect, mais aussi aux yeux du parti au pouvoir, qui pense que c'est quelqu'un qui est lié aux Britanniques, mais il faut savoir que les Britanniques ont un langage sympathisant avec Morgan Tsvangirai.
Voilà, monsieur Moulumba, écoute, je dois rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, ils sont invités à un colloque sur la santé des immigrants. C'est à 10h30 au centre communautaire Patro d'Ottawa. C'est au 40 rue Kobo, croisement Haute-Sainte-Patrick à Ottawa. Et c'est organisé par la communauté congolaise du Canada et ici à Ottawa, à Gatineau. Et on vous rappelle également à surveiller de très près le vendredi 9 mai 2008 à 19h, Suzuki Music vous invite à une soirée musicale électrique au profit de War Child Canada. Beaucoup de choses seront à l'honneur. Mais je vous rappelle que je reviendrai avec ce communiqué-là dans les prochaines émissions d'Afrique Plus. André Moulumba, je ne sais pas si vous avez 30 secondes pour le mot de la fin.
Bon, je pense que le mot de la fin, c'est juste pour parler du sommet Inde-Afrique qui s'est déroulé la semaine passée ici à New Delhi. Je pense que tu as suivi ça de plus près que longtemps. L'Inde a regardé son voisin chinois conquérir des marchés en Afrique. Cette fois, eux aussi se sont lancés à la conquête de l'Afrique.
Alors, c'est tout ce qui est ça. Si vous avez aimé, mesdames et messieurs, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, écrivez-nous à Afrique+1, @commercialrogers.com. Et voilà, nous, on va essayer de nous améliorer, on va essayer de le faire pour vous. On revient la semaine prochaine avec les interviews de Asalfo, du groupe Magic System, et puis de Cheik Fanta, le Guinéen, le cinéaste, le réalisateur de films guinéens, avec lequel nous avons eu une entrevue cette semaine. Andy Mlumba, c'est tout.
Voilà, Jean-Marie Vianney, c'est un peu très court, il y avait trop de choses à parler. Bah, c'est comme ça.
Voilà,
c'est
allez.
Ça, c'est ça, c'est qui fait la valeur de l'édition africaine.
Voilà, on vous laisse avec Ici l'Afrique, avec Mike Mouchella, et on vous